tous. On va continuer notre série dans l'évangile de Jean cet après-midi. Donc, je vous invite à trouver Jean chapitre 3, versets 1 à 21. On va lire ce texte en quelques instants. Mais je voudrais commencer en disant qu'une des réalités de la vie dans un monde physique, c'est que les choses s'usent. Les choses s'usent. Si on utilise quelque chose assez longtemps, ça va finir par être usé. Quand je suis arrivé en France, j'ai acheté un dictionnaire anglais-français. À l'exception de la Bible, ce dictionnaire est le livre le plus important dans ma vie. Grâce à ce dictionnaire, j'ai découvert les mots français exceptionnels comme audacieusement, incorrigiblement, excrementiel et péripatéticienne. Le problème, c'est qu'après 2 ans d'utilisation, ce dictionnaire n'est plus un livre. C'est un tas de failles. Tous les deux ou trois mois, il faut que j'ajoute du scotch, de la colle et des agrafes pour le rendre un peu plus solide. Bien que ce soit toujours un dictionnaire, ce n'est plus un dictionnaire tout neuf. Il n'est plus dans le même état que le jour où je l'ai acheté à la librairie. Je ne peux pas rendre à ce livre un état neuf. En réalité, il ne reste aucun espoir pour cette pauvre masse de matière organique. Il n'y a pas aucune chance que cette excroissance de mon bureau se renouvelle un jour. La fin de son existence est inévitable. De la même façon, le corps humain va vieillir comme un vêtement, comme un dictionnaire. À partir du jour de notre conception, nous entamons un voyage qui mène à la tombe. C'est un peu nihiliste, je sais, mais ça c'est la réalité. La fin est sûre. Mais imaginez que quelqu'un vous offre la vie nouveau ou éternelle. Le seul problème, c'est pas très grave, c'est pour avoir la vie éternelle, il faut naître de nouveau. Il faut simplement naître de nouveau. C'est pas très difficile, il faut simplement que vous entrez une deuxième fois dans le ventre de votre mère et que vous en ressortiez. J'imagine que votre mère serait complètement d'accord avec cette idée, ou non. L'idée de naître de nouveau est un peu bizarre, mais pourtant c'est exactement ce que Jésus nous propose pour connaître la vie éternelle. Aujourd'hui, on va continuer notre série dans l'évangile de Jean en étudiant ce que Jésus a voulu dire quand il a parlé de la nouvelle naissance. On a déjà vu que Jésus était la parole de Dieu, en Jean chapitre 1, qu'il était l'agneau de Dieu, qu'il était le temple de Dieu. Cet après-midi, on va voir que Jésus est aussi l'auteur de la vie nouvelle. Donc on va lire Jean chapitre 3, versets 1 à 21. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit la parole. Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit. Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas cela? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage à ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'est pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour ce texte inspiré de Dieu. Nous savons Seigneur que ta parole est vivante et efficace. Aide-nous de comprendre ce que tu as pour nous dans ce texte cet après-midi Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Il y a 4 points que je voudrais aborder aujourd'hui concernant ce discours de Jésus. Au fur et à mesure de cet épisode, Jésus est en train de développer son sujet, le sujet de la vie nouvelle. Chaque point mène logiquement au suivant. La nouvelle naissance est nécessaire pour connaître la vie éternelle. La nouvelle naissance est une transformation de l'esprit. La nouvelle naissance est possible grâce à la croix. Et la nouvelle naissance nous est rendue disponible par l'amour de Dieu. Alors, voyons voir qu'est-ce que c'est que cette idée étrange de la nouvelle naissance. Dans ce texte, nous découvrons un homme qui s'appelle Nicodème. Nicodème, et qui vient voir Jésus pendant la nuit pour discuter avec lui. Nous apprenons beaucoup de choses au sujet de Nicodème. Il est évident que c'est un pharisien ou un expert en théologie juive. Mais ce n'est pas juste un pharisien. C'est un chef parmi les pharisiens. Il a donc une position importante au sein du peuple. Au deuxième verset, on apprend qu'il vient parler avec Jésus pendant la nuit. Et pourquoi? Est-ce que c'est juste un détail que Jean a ajouté en passant? Est-ce qu'il vient pendant la nuit parce que Jésus était trop occupé pendant la journée? Est-ce que c'était par crainte des autres pharisiens qui n'aimaient pas Jésus? Ce n'est pas explicite dans le texte, mais dans cet évangile, l'apôtre Paul emploie le mot nuit 4 autres fois et c'est toujours dans le contexte qui signifie soit les heures tardives de la soirée, soit l'obscurité spirituelle. La motivation de Nicodème, qui est venu voir Jésus pendant la nuit, c'est pas sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que son propre état spirituel était sombre. C'était une nuit pour Nicodème, une nuit physique, bien sûr, mais aussi une nuit spirituelle. On remarque aussi que Nicodème est sincère, un peu ignorant, et pas très sûr de lui. Sa sincérité est évidente dans la manière dont il s'adresse à Jésus. Il appelle Rabbi, ce qui signifie maître. Son comportement est beaucoup plus agréable que le comportement de ses collègues dans les chapitres suivants. Il montre à Jésus du respect. Nicodème est sincère, mais il est ignorant en ce qui concerne l'identité véritable de Jésus. Il dit que Dieu est avec Jésus, mais c'est tout. Il ne dit pas prophète, il ne dit pas Messie. Il ignore encore qui est Jésus. De plus, il se cache derrière le mot « nous ». Nous savons que Dieu est avec toi. C'est pas moi, c'est nous. C'est comme quand quelqu'un va chez le médecin et lui dit « J'ai un ami qui a ce problème embarrassant. » Nicodème a peur d'admettre sa propre espérance, sa propre petite foi et sa propre curiosité. Mais malgré le mot « nous », c'est bien Nicodème qui est là. Et c'est Nicodème qui représente le peuple d'Israël. Mais ce qui est intéressant, c'est que Nicodème ne pose aucune question de Jésus. Il lui dit simplement, « Nous pensons que tu es quelqu'un d'important, donc je t'écoute. Je t'écoute. C'est tout. » C'est à ce moment-là que Jésus commence à aborder le sujet de la nouvelle naissance. Il connaît Nicodème. Il sait de ce dont Nicodème a besoin. C'est ce dont tout le monde a besoin. C'est la vie nouvelle, la vie éternelle et la vie dans le royaume de Dieu. Jésus reconnaît le problème, le besoin d'avoir une relation avec le Dieu vivant. Et il donne la solution. Il faut naître de nouveau. Pour ceux qui ont grandi dans l'Église, l'idée de la nouvelle naissance n'est pas trop bizarre. C'est pas trop bizarre. Mais ce n'est pas bizarre pour nous parce que on a plus d'informations que Nicodème. Mais pour Nicodème, c'est une idée absurde. C'était une idée complètement absurde. Et c'était précisément l'intention de Jésus. La réponse de Jésus était censée être un peu insaisissable, afin de bousculer l'intelligence avec une réalité spirituelle. Et quand Nicodème répond à Jésus au verset 4, il ne cherche pas à entrer dans le jeu de Jésus. Le texte donne l'impression que Nicodème n'a aucune idée de ce que Jésus a dit. Il y a un peu de mépris dans sa réponse. Après tout, sa réponse est très littéraliste. Jésus a dit qu'il fallait naître de nouveau. Alors Nicodème répond avec la question. Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Tu ne penses quand même pas que je suis aussi bête? Moi, un peu monsieur, retourner dans le ventre de ma mère? Tu n'as rien de mieux à proposer, Jésus? Fais un effort. Ces premiers versets révèlent un peu l'incrédulité de Nicodème. Mais ils montrent aussi que Nicodème a beaucoup de choses à apprendre. Il est un docteur d'Israël, un expert dans la loi. Mais en fin de compte, il est dans la même situation que tout le monde. Il a besoin de la vie éternelle. Il a besoin de naître de nouveau. Pour l'instant, nous savons que la nouvelle naissance est nécessaire pour connaître la vie éternelle, mais on ne sait pas encore ce que ça veut dire, naître de nouveau. On en arrive donc à notre deuxième point. Au moment de répondre aux doutes de Nicodème, Jésus révèle les ingrédients qu'il faut pour la nouvelle naissance au verset 5. On prend de l'eau, on ajoute un peu d'esprit, on mélange les deux, on met au four pendant 30 minutes et voilà la nouvelle naissance. C'est beaucoup plus clair maintenant, n'est-ce pas? En fait, si on réfléchit à ce que Jésus a dit, c'est vraiment logique. Il existe beaucoup de bonnes théories sur la signification de l'eau et de l'esprit dans ces versets. Je vais vous les présenter brièvement. Tout d'abord, il y a des gens qui disent que l'eau et l'esprit font référence à deux naissances différentes. L'une qui est naturelle et physique et l'autre qui est surnaturelle et spirituelle. Ils disent donc que l'eau et l'esprit font référence à la chair et à l'esprit que l'on trouve au verset 6. Donc c'est deux choses différentes. Ensuite, il y a ceux qui disent que l'eau signifie le baptême chrétien et l'esprit signifie la rédemption. Troisièmement, il y a ceux qui disent que Jésus est en train de faire référence à la purification rituelle des Juifs pour dire que l'esprit est nécessaire en plus que la purification. Mais l'interprétation la plus probable, c'est que les deux mots, l'eau et l'esprit, expriment une unité conceptuelle. Les deux mots ne font pas référence à deux choses distinctes. L'idée de naître d'eau et d'esprit est parallèle avec l'idée de naître de nouveau, verset 3. Ce que Jésus dit à propos de l'eau et de l'esprit est pour lui une clarification, un développement de ce qu'il a déjà dit à propos de la nouvelle naissance. La signification de l'eau et de l'esprit est claire bibliquement. Pensez à l'eau. À quoi ça sert? Ça sert à purifier, à nettoyer et à laver. Jésus est donc en train de dire que la nouvelle naissance implique une sanctification ou purification spirituelle. Qu'on a l'esprit, avec un E minuscule, c'est la source de la conscience qui anime et qui soutient la vie. Au verset 5, « Esprit » ne fait pas référence à Saint-Esprit, mais plutôt à la nature de Dieu qui est impartie à ceux qui se repentent. Comme lorsque Paul dit que les croyants sont devenus les hommes spirituels. Okay? La nouvelle naissance est donc une transformation, ou plus précisément, une régénération qui a des effets éternels. 1 Pierre 1, verset 23 dit que le chrétien a été régénéré par la parole vivante et permanente de Dieu. D'autres traductions de ce verset disent « naître de nouveau » par la parole de Dieu. Dans le texte, Jésus montre qu'il y a une distinction entre l'homme et Dieu. « Ce qui est né de la chair est chair, dit-il, et ce qui est né de l'Esprit Saint est esprit. » La nouvelle naissance est une régénération que Dieu opère et qui sauve. La troisième chose, Jésus a donc expliqué que la nouvelle naissance était nécessaire pour connaître la vie éternelle. Et il a dit que la nouvelle naissance était synonyme avec la régénération de l'esprit. Mais comment ça marche? Comment ça marche? Dans les versets 12 à 15, Jésus explique ce qu'il veut dire. En disant que la nouvelle naissance est possible grâce à la croix. Jésus sait déjà que sa propre crucifixion est nécessaire au salut du peuple d'Israël. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ces versets, mais je voudrais surtout examiner ce que Jésus a dit au sujet de Moïse et du serpent dans le désert. On trouve l'histoire de ce serpent dans le livre des Nombres, chapitre 21. Dans cette histoire, le peuple d'Israël se trouve dans le désert. Ils n'étaient pas contents de leur situation malgré la provision fidèle de Dieu. Et hélas, ils murmuraient contre Dieu. À cause de leur incrédulité et de leur mauvaise attitude, Dieu a envoyé une plaie, des serpents vénéneux, qui ont mordu un grand nombre de personnes parmi le peuple. Mais dans sa grâce, Dieu a pourvu un moyen pour que les Hébreux conservent la vie. Il a ordonné à Moïse de construire un serpent en bronze et de le mettre sur une perche afin que quiconque le regarde soit sauvé. C'est un peu bizarre comme remède. Imaginez qu'en traversant la rue ce soir, vous soyez renversé par un gros camion. Vous gisez par terre, tout proche de la mort. Le pronostic n'est pas bon, bien sûr. Mais soudain, quelqu'un arrive et vous dit de ne pas vous inquiéter. Il a une solution. Il cherche dans sa poche et sort un petit modèle de camion. Il s'attache soigneusement le modèle réduit au bout d'un perche et vous dit « Regarde !» Vous regardez et miracle, miracle, vous êtes complètement remis sur pied. Comme je l'ai dit, le serpent de bronze sur la perche nous semble être un remède bizarre. Mais dans ce texte, Jésus fait référence à ce serpent comme à une préfiguration de Christ sur la croix. Le serpent a été élevé en tant que remède physique pour ceux qui le regardaient. De la même manière, Jésus a été élevé sur la croix pour que ceux qui croient en lui reçoivent le remède spirituel. C'est un argument a fortiori, qui dit « Si ceci est vrai, à combien plus forte raison cela ?» Si ceci est vrai, à combien plus forte raison cela ? Si Dieu a sauvé le peuple d'Israël par un serpent de bronze, ce n'est pas si étrange que ça de penser qu'il puisse sauver son peuple une fois pour toutes par son propre fils. Le peuple d'Israël a été sauvé de la mort par la grâce de Dieu. Le moyen était le serpent de bronze. Mais en ce qui concerne Jésus, il est lui-même notre salut. Il est lui-même la résurrection et la vie. C'est clair maintenant, la nouvelle naissance vient par la foi en Jésus, grâce à ce qu'il a fait sur la croix. Finalement, je voudrais dire que la nouvelle naissance nous est rendue disponible par l'amour de Dieu. La magnitude de l'amour de Dieu apparaît clairement au verset 16 à travers le mot « unique ». Le Père a offert le meilleur don possible, son Fils unique et bien-aimé. En fait, on voit dans les chapitres 13 à 17 de l'Évangile de Jean que le Père aime le Fils et que l'amour du Père pour ses disciples, pour les disciples, est souvent obtenu par la médiation de Jésus. Il existe dans la Trinité un amour pur et parfait. C'est par Jésus, le Fils, que Dieu manifeste son amour pour le monde. La magnitude de l'amour de Dieu apparaît également à travers le mot « monde » au verset 16. Ce qui me frappe, c'est le fait que Dieu donne son amour à un monde qui est horrible. L'amour de Dieu est offert au monde pas seulement au sens d'un endroit qui est grand, mais qui est rempli, l'amour de Dieu est offert au monde pas seulement au sens d'un endroit qui est grand et qui est rempli de beaucoup de gens, mais aussi au sens d'un endroit qui est horrible et dépravé. En fait, le mot « monde » ici ne fait pas référence à quelque chose de grand, mais à quelque chose de détestable. Malgré le jugement terrifiant qui est prononcé contre le monde à cause de nos péchés, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il aime un peuple qui ne l'aime pas et qui n'est pas capable de l'aimer. Ce qui est important à retenir ici, c'est le fait que Jésus n'est pas entré dans un monde moralement neutre. Il n'est pas entré dans le monde pour condamner certaines personnes et pour en sauver d'autres. Il est entré dans un monde qui était déjà condamné et qui avait besoin d'un sauveur. À travers ce petit échange entre Nicodème et Jésus, nous apprenons trois choses importantes. Premièrement, sans Christ, nous sommes condamnés à la mort. Nous allons vieillir sans avoir aucune espérance d'une vie nouvelle ou d'une nouvelle naissance. La réincarnation n'est pas une option possible. Deuxièmement, Christ nous invite, nous aussi, comme Nicodème, à nous repentir et à recevoir la vie éternelle, la nouvelle naissance. La vie éternelle nous est offerte par le moyen de la foi, pas par le moyen de nos œuvres. Troisièmement, le renouveau et la transformation qui viennent de Jésus concernent notre vie toute entière. C'est-à-dire que nous sommes appelés à une vie juste qui glorifie Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pour résumer ce texte en une phrase, une grande phrase, nous êtes nés sous le jugement de Dieu et votre seul espoir est de naître de nouveau et de recevoir par la grâce de Dieu la vie éternelle qui a été révélée et rendue possible par Jésus sur la croix. Jésus est l'auteur de la vie nouvelle. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour la vie nouvelle que tu nous offres. Nous te confessons que nous avons besoin d'une transformation qui vient de l'Esprit Saint et qui est rendue disponible par l'amour de Dieu. Renouvelle nos esprits et nos cœurs, Seigneur, et rends-nous comme toi. Au nom de Jésus, Amen.